Bonjour à chacun d'entre vous. Je crois que ce matin, le groupe de jeunes, enfin une partie du groupe de jeunes est en week-end. Alors on a l'impression que l'église n'est pas complètement vide, mais on se croit au mois d'août. Enfin, la température est là pour nous rappeler que ce n'est pas le cas. Voilà, la semaine dernière, Stéphane a dit qu'on était un culte de vieux, puisque une partie du groupe de jeunes n'était pas là. Alors moi, je me dis qu'on pourra aujourd'hui parler de choses sérieuses, au fond. Voilà. Ah, ça a plu à quelqu'un. Ce matin, je vais vous emmener à Damas. Voilà, alors, pas le Damas d'aujourd'hui, parce que je pense que si on allait à Damas aujourd'hui, eh bien, ce serait dangereux, parce qu'on y trouverait une situation de guerre. Mais je vous propose d'aller à Damas en l'an 35. Donc, c'est sans doute plus calme. Et puis, plus précisément, sur la route qui va de Jérusalem à Damas. Et près de la ville, si on se rendait en l'an 35, eh bien, sur cette route, et près de Damas, on y rencontrerait un homme qui s'appelle Saul. Saul qui, plus tard, un petit peu plus tard, prendra on sera désigné avec son nom romain, qui est Paul. Paul dont le rayonnement eh bien, sera énorme et son rôle sera très très important dans la diffusion de l'Évangile dans le bassin de la Méditerranée. Et puis Paul aussi l'auteur, bien sûr, de plusieurs livres du Nouveau Testament. Mais on n'en est pas là. Et là, en l'an 35, sur ce chemin, eh bien, il s'appelle Saul. Et il va à Damas pour martyriser des chrétiens. Et là, il fait une rencontre extraordinaire. Il rencontre Jésus lui-même, qui lui apparaît. C'est ce qui lui permettra de prendre le titre d'apôtre. Et Paul est un apôtre. Et je vous propose de lire ce récit de la conversion de Saul, donc sur ce chemin de Damas. Et on va prendre les 22 premiers versets du chapitre 9 des Actes. Voilà, et j'ai mis en illustration un tableau qui représente, selon le Caravage, c'est donc l'auteur, le peintre qui a peint ce tableau, peint du XVIe siècle, qui représente justement cette conversion, sa vision, la vision de l'artiste de la conversion de Saul. Donc je commence par le premier verset du chapitre 9. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas, et il resta 3 jours, sans voir, et il mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prie. Il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints, à Jérusalem. Et ici, il a plein de pouvoir de la part des chefs des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant le chef des prêtres ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Et je vous propose de prendre tout simplement le premier verset, le début. Et tout au début, eh bien, il y a une description qui est faite de Saul. Quelques mots, mais quelques mots qui sont extrêmement clairs. cette description est résumée en disant « il respire la menace et le crime ». C'est une sacrée expression, hein ?« Il respire la menace et le crime et le meurtre ». Ça veut dire qu'à cette époque-là, il valait mieux pas croiser Saul. Et s'il était entré dans cette église ce matin, eh bien, on aurait été tous arrêtés, persécutés et puis probablement tués. Et c'était ça, le Saul de cette époque, quelqu'un de dangereux et quelqu'un de cruel pour les chrétiens de cette époque. Et non seulement il était cruel, mais en plus il était particulièrement déterminé pour mener à bien sa mission. Car il considérait que ceux qui étaient de la voie, et être de la voie c'était l'expression qui était utilisée à l'époque pour dire qu'on était chrétien, donc ceux qui étaient de la voie eh bien, étaient des personnes qui étaient dangereuses pour le judaïsme. Et donc il s'était donné cette mission eh bien, d'arrêter, de persécuter et de tuer les chrétiens. Et sa détermination, je trouve, est illustrée par ce qu'il est prêt à faire. Parce que là, sur le chemin donc, de Jérusalem à Damas, j'ai mis une carte. Vous voyez ici, Jérusalem, là c'est Damas. Vous voyez, ça représente 240 km. Et pour parcourir 240 km dans un sens, arrêter les prisonniers et bien sûr repartir dans l'autre sens pour refaire 240 km et amener les prisonniers à Jérusalem, quand on pense à la qualité des transports de l'époque, on dit qu'il devait quand même être particulièrement motivé. Et puis ensuite, donc il va s'arrêter, je profite qu'il y a la carte, il va s'arrêter à Damas, c'est là où il va se convertir, il va y rester quelques temps, ensuite il va repartir à Jérusalem, et ensuite, comme sa vie était menacée, eh bien, il va partir à Tarse, et Tarse, voilà, c'est tout au-dessus, là, tout au nord. Voilà. Et Paul vient de cette région-là, voilà, pour situer un peu les quelques grandes villes qui vont être citées dans ce passage. Jérusalem, Damas et Tarse, en haut. Et je crois que c'est important d'avoir en tête la cruauté de Saul à cette époque-là, hein, le Saul. Parce que nous, quand on parle de Paul, et je dis bien de Paul, nous on a en tête eh bien, l'apôtre, effectivement, celui qui a écrit des épîtres merveilleux qui nourrissent notre foi, et on oublie un peu ce qu'il était avant Saul. Et Saul, effectivement, c'était un meurtrier, c'était un chasseur de chrétiens, si je puis dire. Et je trouve que d'avoir ça en tête, eh bien, ça nous montre d'autant plus que sa conversion est un vrai miracle, et à quel point sa situation a changé de manière radicale. Et d'avoir ça aussi en tête, eh bien, ça donne encore plus de force, je trouve, à ses écrits. Donc là, à cette époque, Saul est vraiment un meurtrier, un chasseur de chrétiens, et il va à Damas eh bien, pour ça. Et à cette époque-là, eh bien, la quasi-totalité des chrétiens étaient des juifs qui s'étaient convertis. Et donc, avant de partir à Damas, eh bien, Paul, Saul, a rencontré le grand prêtre pour lui demander des lettres de mission, de manière à ce qu'il ait la légitimité d'entrer dans les synagogues de Damas pour arrêter les chrétiens. Et donc, Saul est parti à Damas avec ses lettres dans sa poche. Et au verset 3, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Sur le chemin de Damas, donc un peu avant d'arriver à la ville, eh bien, sa vie bascule en quelques minutes. Parce qu'il lui est physiquement impossible d'aller plus loin. Et un phénomène surnaturel se produit. Une lumière qui vient du ciel, eh bien, l'éblouit. Je l'imagine bien comme le Caravage l'a représenté, tomber de son cheval et il ne peut plus rien faire. Il tombe comme ça, sous la puissance de la lumière. Et il n'y a pas que la lumière, il y a aussi une voix. Et une voix, et il entend « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et je trouve intéressant la manière dont Jésus interpelle Saul. Et il utilise son nom et il lui dit deux fois. Comme si un peu il voulait le réveiller. Hein, ou comme si aussi il voulait lui montrer qu'il le connaissait. C'est intéressant qu'il utilise son nom, Saul, Saul. Je te connais au point de connaître ton nom. Il a dû être surpris, au-delà de la lumière, au-delà du choc qu'il a reçu recevoir, en plus, il entend son nom. Donc Jésus utilise son nom et il montre comme ça qu'il le connaît. Et le seul lien que Saul a avec Jésus est la persécution. Quelque part, Jésus lui dit « on se connaît déjà, c'est moi que tu persécutes, j'existe, je suis vivant ». Et c'est moi contre qui tu t'acharnes. Et il se présente, au fond, sous l'angle de ce que Saul connaît de lui. Il ne dit pas « je suis le fils de Dieu, je suis le fils de l'homme, je suis… » Enfin bref, il y aurait eu plein de qualificatifs possibles, hein, la pierre angulaire de la création, enfin bref, plein de titres ronflants. Il dit « non, je suis celui que tu persécutes. » Et ce que tu fais aux Juifs convertis, eh bien c'est à moi que tu le fais. Ce que tu fais à mes frères et sœurs, c'est-à-dire aux chrétiens, c'est à moi que tu le fais. Je suis celui que tu persécutes. Et je fais ici une parenthèse parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête que quand des chrétiens sont persécutés, eh bien c'est Jésus qui est persécuté. Et Jésus ici le dit bien, c'est moi que tu persécutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait, et notamment dans la région de Damas, Damas d'aujourd'hui, eh bien on sait qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés. Et je crois quand on ne se soucie pas de la persécution des chrétiens d'aujourd'hui, eh bien on ne se soucie pas de la persécution de Christ. Voilà, et je crois que c'est quelque chose que l'on doit avoir à cœur dans nos engagements, dans nos prières. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. De souvenir que quand les chrétiens sont persécutés, eh bien c'est Christ qui est persécuté. Donc, je reviens à l'appel de Saul et je trouve intéressante la formule que Jésus utilise. Et il y a comme une opposition, un contraste entre le début, Saul, Saul, et puis je suis celui que tu persécutes. Si on avait, nous, écrit les dialogues de cette rencontre, si on s'était mis à la place de Jésus, on aurait dit, dis donc, misérable avorton, je suis celui que tu persécutes. Hein, mais misérable avorton, c'est quand même un mot, un terme que Paul utilisera pour se désigner lui-même. Ou alors, oui, ça c'est cohérent. Ou alors il aurait dit, Saul, Saul, est-ce que tu veux me suivre? Là aussi, il y a une certaine cohérence. Mais je trouve qu'il y a une opposition entre l'utilisation du nom, Saul, Saul, qui est quelque part de la relation, et puis c'est moi que tu persécutes quelque part où il y a une opposition, voire il y a de la haine. Et c'est vrai que Saul avance sur le chemin de Damas avec de la haine dans le cœur, parce qu'il veut, justement, il vient pour persécuter les chrétiens. Et Jésus lui répond quoi? Il lui répond par de l'amour au fond. Saul, Saul, il lui répond par la relation. Et je trouve que c'est le sens de cette phrase. Saul, Saul, c'est moi que tu persécutes. Vous voyez, quelque part, Christ va vers lui en l'appelant par son prénom. Alors que Saul, eh bien lui répond par la persécution. Quelque part, c'est la crucifixion qui se joue là aussi. C'est la haine des clous plantés dans la main et les pieds de Christ. Et puis, c'est l'amour de la vie donnée. Donc on a cette opposition, et puis Saul est par terre, il entend cette voix, et au verset 5, il lui dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Saul a compris qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, et d'extraordinairement puissant au point de le mettre par terre. Et là, c'est le début de sa conversion. « Qui es-tu, Seigneur ?» Je vois bien que tu es puissant, je vois bien que je ne peux rien faire contre toi. Qui es-tu, Seigneur ? Et ça, c'est une question qui engage à la découverte. Qui es-tu, Seigneur ? Qui engage le dialogue aussi, la relation. Et déjà, il y a un progrès, vous voyez, de Saul, là. Il se dirige, commence à diriger vers le Seigneur, parce qu'il le reconnaît justement comme Seigneur. Je reconnais que tu es Seigneur, je te reconnais. Qui es-tu, Seigneur? Et c'est vrai que c'est une bonne étape pour la conversion. Je veux bien croire en toi, mais d'abord, dis-moi qui tu es. Et le Seigneur répond. Et pour entendre sa réponse, que ce soit pour nous ou que ce soit pour Saul, eh bien, il faut être capable de l'écouter. Et là, Saul était, lui, particulièrement capable de l'écouter parce que la lumière, eh bien, l'avait rendu aveugle. Et je pense que c'est pour ça que le Seigneur l'avait rendu aveugle, c'est que, justement, ça lui permettait, justement, une meilleure qualité d'écoute. Qui es-tu, Seigneur ? Moi, je suis Jésus. Je suis celui que tu persécutes. Et maintenant, Jésus donne son nom. Et je trouve vraiment très, très beau la simplicité de cette rencontre. Là encore, Jésus aurait pu dire « Je suis le Fils de Dieu », enfin plein de titres ronflants qui n'auraient pas été usurpés, hein, s'il est vraiment tout ça, « Je suis le Seigneur », enfin bref. Et il dit « Je suis Jésus ». « Je connais ton nom, Saul, et moi je te donne le mien, Jésus ». Et vous voyez la simplicité de la rencontre, et je trouve que c'est touchant, cette rencontre-là. Et c'est touchant de simplicité, parce que la relation est simple. « Je me présente simplement à toi ». Mais regarde ma puissance, je t'ai mis par terre, je t'ai aveuglé, je t'ai rendu aveugle. Tu vois, Saul, tu t'es pas attaqué à n'importe qui. Regarde ce que je peux te faire, hein, je peux t'aveugler, t'anéantir, mais j'ai un autre projet pour toi. Saul était loin de Dieu lorsque Jésus lui apparut. Et on utilise souvent cette expression, être loin de Dieu. On dit de quelqu'un, il est loin de Dieu, ou au contraire, il est proche de Dieu. Et cette phrase que l'on utilise souvent, eh bien, bibliquement, elle n'a pas de sens, même si c'est le titre de ma partie. Parce qu'au fond, c'est beaucoup plus binaire que ça. On est avec Dieu ou on n'est pas avec Dieu. Ouais, c'est parce que quand on dit on est loin de Dieu ou proche de Dieu, on imagine la relation un peu comme un curseur, voyez, où eh bien voilà, je suis proche de Dieu, je suis éloigné de Dieu. Non, c'est voilà, on n'a pas de double nationalité. On est avec Dieu ou on n'est pas avec Dieu. Mais c'est vrai que certains ont plus que d'autres beaucoup de choses à se faire pardonner. Et Saul avait beaucoup de choses à se faire pardonner. Et notamment le meurtre de chrétiens. Parce qu'il peut y avoir des crimes plus lourds à se faire pardonner que d'avoir assassiné des chrétiens parce qu'ils étaient chrétiens. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin, au fond, hein, dans le pardon. Et c'était sa situation à Saul. Et je ne prends pas beaucoup de risques ce matin en disant que personne ici dans cette situation d'avoir tué des chrétiens. Enfin, j'espère. Oui. Mais ça nous fait sourire ici en France. Hein, mais ce qui n'est pas le cas ailleurs, je ne redirais pas ça ailleurs. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Saul a été pardonné, si Saul est devenu Paul et a eu le ministère que l'on connaît, eh bien ça veut dire que chacun d'entre nous peut être pardonné des péchés, même que l'on a commis, même si on a l'impression qu'on n'est pas digne de Dieu, qu'on n'est pas digne de s'approcher de Dieu, d'être avec Dieu, parce qu'on est trop sale, parce que nos péchés sont trop lourds, parce qu'on est trop loin, pour reprendre cette expression, même si elle n'est pas juste, eh bien tout ça c'est un mensonge. Et d'ailleurs Charlie l'a rappelé au moment de la Sainte-Cène. Hein, on n'est jamais trop loin, si je puis dire. On n'a pas de péché trop lourd qui ne puisse être pardonné. Et Saul est un exemple. Il n'y a pas de péché plus lourd au fond que de tuer des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Et Saul a été pardonné, a rencontré Jésus, et il a eu un ministère incroyable. Dans d'autres passages du livre des Actes, on a un peu plus d'informations sur cette conversion, parce que Saul, le raconte lui-même. Et dans Actes 22, au verset 10, il nous dit, « Après avoir dit, qui es-tu Seigneur ?» Il a dit, « Que dois-je faire ?» Que dois-je faire, Seigneur ? Et c'est deux étapes intéressantes à la conversion de Saul. Qui es-tu, Seigneur ? Ouais, première étape. Que dois-je faire, Seigneur ? Deuxième étape. Et quand il dit « Que dois-je faire, Seigneur ?», eh bien ici, il exprime sa soumission à Christ. Que dois-je faire, Seigneur ? Et cette question nous conduit naturellement à la deuxième partie que je vous propose, qui est justement l'obéissance. L'obéissance du serviteur. Que dois-je faire, Seigneur ? Et Saul exprime ici qu'il est prêt à obéir. Et il en est de même du deuxième personnage important de cette histoire, qui est Ananias. Et c'est vrai qu'on a lu l'histoire, il y a deux personnages importants dans cette histoire, dans les quelques versets que l'on a eus, Saul et Ananias, qui ont fait preuve tous les deux d'une grande obéissance. Deux hommes à la vie complètement différente, mais dont le point commun est l'obéissance absolue. D'un côté, une personne au destin hors norme, Saul, et de l'autre côté, Ananias, qui est plus une personne ordinaire, mais dont le rôle a été essentiel dans le plan de Dieu, puisqu'il a contribué à la conversion de Saul. Et la Bible est remplie de ces serviteurs de l'ombre, ces gens ordinaires qui nous ressemblent au fond. Il n'y a pas de Saul parmi nous, avec le ministère que l'on connaît de lui. Ils nous ressemblent, ces gens, ces héros ordinaires, ces gens ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires parce que le Seigneur les utilise. Alors je vous propose de nous intéresser d'abord à Saul à propos de l'obéissance. Verset 6, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Boum. Le décor est planté. Il n'y a pas beaucoup de place à la négociation, vous voyez, comme marge de manœuvre. Et lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Je ne sais pas si Saul avait tellement l'habitude qu'on lui parle comme ça, vous voyez, lui qui était plein de détermination, sans doute plein d'initiatives pour justement persécuter les chrétiens. Là, tu te lèves et tu vas dans la ville et on te dira quoi faire. Bon, voilà, c'est un bel apprentissage de l'obéissance. Il n'y a ni perspective, ni explication. Dit autrement, commence par aller dans la ville, et puis ensuite, tu verras ce qui se passe. Et même plus exactement, demande à ce qu'on t'emmène dans la ville, parce que justement, il était aveugle, et donc on a dû lui prendre la main pour le conduire à Damas. Et là, eh bien, tu verras ce qui se passe. Enfin, verra, une façon de parler, parce qu'il était aveugle. Mais... Alors, on le prend par la main, et on le conduit à Damas. Lui, Saul, qui était encore une fois rempli de détermination pour persécuter les chrétiens, en un instant, son statut a radicalement changé. Il va toujours à Damas, ça n'a pas changé, mais par contre, il ne sait plus du tout pourquoi. 3 jours à être dépendant des autres pour le quotidien. 3 jours à ne rien pouvoir faire seul. On le prend par la main pour terminer le voyage jusqu'à Damas. Malgré les yeux ouverts, nous dit le texte, il ne voyait rien. Il ne pouvait qu'obéir. Et pendant que Saul est sur la route de Damas, eh bien, lui, Ananias, il est chez lui. Et il entend l'appel de Jésus, et il répond au verset 10, « Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. » Et comme pour Saul, eh bien, Jésus l'appelle par son nom, Ananias. Et c'est intéressant de mettre en parallèle les deux appels, celui de Saul et celui d'Ananias. Et dans les deux cas, Jésus utilise les prénoms. Dans les deux cas, les deux répondent eh bien, par un Seigneur. L'un me dit « Voici, c'est Ananias », et Paul qui répond « Qui es-tu ? » Mais Ananias savait, lui, de qui venait l'appel. Et pour les deux, Jésus dit « Lève-toi ». Et ce « Lève-toi » est puissant, ce « Lève-toi » est responsabilisant. Et ça se passe en 3 ou 4 étapes. J'ai fait un petit tableau. Ananias à gauche. Jésus qui appelle Ananias. « Me voici, lève-toi ». Pour Saul, « Qui es-tu, Seigneur ? Que dois-je faire ? Lève-toi ». Et ces trois ou quatre séquences, en fonction, hein, ces trois ou quatre étapes, au fond, eh bien, devraient être l'essentiel du dialogue entre l'homme et son Dieu. Et on a là, en quelques mots, le résumé de notre vie de chrétien telle qu'elle devrait être. Si vous mettez votre prénom à la place de celui d'Ananias, il y a l'essentiel de l'obéissance. Si je le fais avec mon prénom, Arnaud, j'entends cet appel, me voici, lève-toi. Et c'est aussi simple que ça. Et tous les dialogues, toutes les phrases que l'on peut rajouter à ces dialogues-là, eh bien, finalement, c'est que de la littérature, et c'est nos peurs, nos désobéissances. Mais le dialogue entre Dieu et nous, eh bien, devrait être celui-là. Lève-toi. Lève-toi, entre dans la ville, dit Jésus à Saul. Lève-toi et va dans la rue, dit Jésus à Ananias. Versets 11 et 12, si je reviens à Ananias et à son appel, il est nécessaire qu'il trouve la bonne raison, la bonne maison, la bonne raison sans doute, mais la bonne maison aussi. Alors Jésus lui donne des détails. Et ça a dû être la même chose pour Saul. Il lui a donné des détails, eh bien, pour qu'il trouve la bonne maison et puisse se retrouver. Va dans la rue que l'on appelle la droite, va dans la maison de Judas. Je ne sais pas si ça l'a rassuré d'ailleurs que la maison s'appelle la maison de Judas, mais c'est un autre problème. Demande à un dénommé Saul, il a une vision et il est question d'un homme appelé Ananias. Et au début, ça n'enchante pas beaucoup Ananias d'aller rencontrer Saul. Il n'a pas tellement envie d'y aller parce qu'il sait qui est Saul. Et il exprime à Jésus sa réticence, il exprime sa crainte. Et il y a un dialogue qui s'installe entre Ananias et Jésus. Et je trouve que la réaction d'Ananias est pleine d'humanité. Elle peut même faire sourire parce qu'il explique à Jésus qui est Saul et quel est l'impact, le danger que représente Saul. Un peu comme si Jésus n'était pas au courant, vous voyez, de ce qui se passe. Et je trouve que cette réaction est pleine d'humanité parce que ça nous ressemble tellement d'expliquer à Jésus des choses qu'il sait déjà. Et ce que je trouve beau aussi, là aussi touchant, c'est que le Seigneur ne rejette pas la réaction d'Ananias, mais il le rassure. Et le Seigneur fait preuve de patience ici. Il comprend les réticences d'Ananias et il lui redit « Lève-toi, vas-y ». Et là, il le missionne, il lui révèle un certain nombre de choses sur le ministère de Saul. Il lui dit que Saul sera un instrument précieux entre les mains de Dieu, et un instrument puissant. Et son mandat est clair, faire connaître le nom de Jésus aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Et ça, c'est sans doute quelque chose qu'Ananias a dit à Saul quand il l'a rencontré. Le texte ne nous le dit pas, mais on peut le penser. Et Jésus révèle aussi à Ananias à quel point Saul devra être obéissant. Au verset 16, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Après avoir fait souffrir, eh bien, c'est lui qui va souffrir. Et ce n'est pas une façon pour Saul d'obtenir une certaine rédemption, puisque tu as fait souffrir, eh bien, je vais te faire souffrir. Non, ce n'est pas du tout ça, mais c'est une façon de préparer Saul à son ministère, de préparer psychologiquement, j'ai envie de dire, à la souffrance et de l'aider à accepter son ministère. Alors Ananias est rassuré et il suit les instructions de Jésus. Il dépasse sa peur et va rencontrer Saul. Et on a deux exemples là de personnes qui ont obéi, qui se sont levées pour servir. Et Saul, comme Ananias, aurait pu opposer plein d'arguments au lève-toi. Saul aurait pu dire « mais je ne suis vraiment pas la bonne personne pour aller convertir des chrétiens, je fais peur à tout le monde, ça va jamais, ils ne vont jamais croire, je ne vais jamais être crédible, enfin bref, il y aurait eu plein d'arguments. » Et Ananias aurait pu avoir aussi plein d'arguments « mais je ne vais pas rencontrer Saul, il est dangereux, qu'est-ce qu'il va me dire ?» Enfin bref, hein, on aurait été tous les uns et les autres très créatifs pour trouver des arguments pour ne pas y aller. Et ce n'est pas ce qu'on fait, ni Saul, ni Ananias. Leur obéissance a surmonté tous les obstacles. Et être chrétien, c'est être en mouvement. C'est obéir et c'est de se lever. Et au fond, il n'y a que deux positions possibles pour le chrétien. Soit il est debout pour servir, soit il est à genoux pour prier et pour adorer. Et bien sûr, ces postures sont symboliques, mais nos attitudes de cœur devraient être celles-ci. Soit debout pour servir, soit à genoux pour prier. Et mesurons bien l'importance de notre témoignage. Mesurons également l'importance de notre obéissance. Nous sommes des personnes ordinaires, mais nous pouvons faire des choses extraordinaires parce que nous obéissons. La peur d'Ananias était sans doute grande, mais son obéissance a été encore plus grande. Que se serait-il passé s'il avait dit non, Ananias ? S'il avait dit non, je préfère rester chez moi, il y a les JO en ce moment, c'est intéressant. Je préfère rester à la maison. Eh bien, en fait, il y aurait eu deux possibilités. Soit Saul n'aurait pas eu le ministère qu'on connaît, Bon, j'y crois pas trop parce que c'était le plan de Dieu. Mais la deuxième possibilité est que Jésus ait demandé à quelqu'un d'autre. Et si Jésus avait demandé à quelqu'un d'autre, eh bien Ananias se serait privé de contribuer, de participer à la réalisation du plan de Dieu pour l'humanité. Et c'est le risque que nous prenons quand on reste assis. C'est le risque que nous prenons quand on dit non à Dieu, quand on voilà, qu'on s'investit pas, ou enfin, pas être culpabilisant du tout, mais c'est le risque que l'on prend si l'on dit non, et bien que Jésus demande à quelqu'un d'autre. Et je crois qu'on n'est pas toujours conscient de l'impact qu'une parole peut avoir, une parole qui peut marquer, une parole qui peut changer la vie. Ou au contraire, l'absence de parole, c'est-à-dire des paroles qu'on n'a pas dites, où on dit « tiens, j'aurais dû lui dire ça », et puis hop, puis je ne le dis pas. Vous voyez, ça, en tout cas, moi, ça m'arrive. Et par ça, nous contribuons ou pas à la réalisation du plan de Dieu. Il n'y a rien de moins que ça. Il n'y a que quelques versets qui parlent d'Ananias. On ne le voit que là, puis après, on n'entend plus parler de lui. Il a simplement obéi. Mais son obéissance a été déterminante pour Saul, et donc pour le plan de Dieu. Pour l'humanité, c'est un héros de l'ombre. Et la Bible est remplie de ces héros de l'ombre, dont on parle que quelques versets, mais qui ont un impact important. Et nous sommes plus proches, nous, d'Ananias que de Saul. Nous sommes des gens ordinaires, mais nous pouvons changer des vies. Nous avons un pouvoir incroyable, dont nous ne profitons sans doute pas assez, nous ne développons pas assez. Parce que faire ce que le Seigneur nous demande de faire, eh bien, c'est ça, bien sûr, l'obéissance. Et bien sûr, on n'a pas un appel aussi clair qu'Ananias. Je n'ai jamais entendu mon prénom aussi clairement. Bien sûr, évidemment que non. Mais au fond de notre cœur, on sait bien ce que le Seigneur nous demande quand il nous le demande de nous lever. Ça, il nous le dit à chacun. Jeudi dernier, je suis allé voir un match de foot à Lyon. Pour les experts, c'était Lyon-Villarreal. Voilà, c'était un chouette match. Et j'étais à côté du virage nord. Et le virage nord, c'est le virage des supporters, des supporters. Et devant, en bas, près de la pelouse, il y a le chef des supporters. Et le chef des supporters, il n'a pas de chance parce que lui, il ne voit pas le match. Il est face aux supporters et puis c'est lui qui donne le rythme des « Aou !» ou autre truc de supporters. Il guide les chants, enfin bref, c'est le chef des supporters. Enfin bref, ce que font un supporter devant un match de foot, quoi. Et puis tout d'un coup, il s'arrête et puis il dit à la tribune, visiblement en haut, il leur dit « Ça va là-haut, la sieste est bonne, oui ?» Hein, si vous n'êtes pas content d'être là, vous pouvez rentrer chez vous. Hein, y a le tram encore qui circule, hein, vous pouvez rentrer. Enfin bref, il était en train de les booster. Parce que j'ai cru comprendre qu'ils chantaient peut-être pas assez fort, ils tapaient pas assez dans les mains. Enfin bref, mais enfin, ouais, ça va, la sieste est bonne. Enfin bref, je pense qu'ils ont dû être contents. Et puis après, tout le monde chantait, c'est intéressant. Mais je trouve, en rappelant à cette situation, je me disais, mais parfois, le Christ ne fait pas ça, mais parfois, il aurait envie de nous dire, ça va, la sieste est bonne. Vous voyez, je ne veux pas être culpabilisant, encore une fois, je ne veux pas être moralisateur non plus, et tout ce que je dis là, je me dis en premier. Mais c'est vrai que être chrétien, ce n'est pas un sport de spectateur, en fait. Voilà. Il était rigolo, le chef des supporters, parce qu'il disait « il y a une victoire à aller chercher ». Vous voyez, on a l'impression que c'était lui qui est sur le terrain, quoi, hein, voyez, c'était important. Il y croyait, il vivait son truc. Mais être chrétien, ce n'est pas un sport des supporters, c'est un sport où il faut être sur le terrain, où il faut mouiller le maillot. Et rappelons-nous justement ces séquences avec notre prénom. Arnaud, me voici, lève-toi. Ananias a pris sa part. Il a quelques versets pardon, qui le concernent, mais il a pris sa part. Saul aussi a pris sa part. Et assurons-nous eh bien, que nous faisons notre part aussi. Alors les deux hommes se rencontrent. Et c'est une belle rencontre. Une fois rentré dans la maison, Ananias va voir Saul et pose ses mains sur lui. Il ne lui dit pas « C'est toi, Saul ?» Dis donc, tu vois en avoir gros sur la conscience, hein, dis donc. Ou dis donc, il est vraiment sympa le Seigneur hein, de t'avoir choisi, parce que moi, à sa place, j'aurais pas. Non, rien de tout ça. Ananias dit seulement, Saul, mon frère. Saul, mon frère, verset 17. Et Saul est passé d'une situation en 3 jours où il a entendu, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu, à Saul, mon frère. Et Jésus n'est plus celui que tu persécutes, mais Jésus est celui qui t'est apparu. Imaginez en 3 jours le changement radical de vie. Quel parcours. Ananias a été le premier à montrer à Saul ce que voulait dire l'amour fraternel. Le premier à l'appeler mon frère. Et Ananias ne s'est pas posé de questions, justement, sur le danger. Il a là aussi encore obéi. Ananias, ce serviteur de l'ombre, comme je l'ai appelé tout à l'heure, eh bien, aura très certainement marqué la vie de Saul. Et il pose les mains sur Saul. Est-ce que vous vous souvenez des premières personnes qui ont été sur les premiers temps de votre vie de chrétien? Je ne parle pas de la personne avec qui vous êtes converti, hein, mais après. Parfois, ça arrive qu'on se convertisse seul, mais souvent, on est accompagné par quelqu'un. Mais est-ce que vous vous souvenez des premières personnes qui ont été comme des balises sur votre chemin, vos premières années? Moi, je me suis converti dans une famille non chrétienne. J'étais adolescent. Et beaucoup d'hommes, plusieurs hommes, parce que j'aimais bien plutôt observer les hommes, voir ce quoi ressemblait un homme chrétien. Et je me suis fait comme ça, mon petit panthéon personnel d'hommes qui m'ont marqué et qui ont influencé. Et ça, c'est des personnes et des rencontres qui ont été importantes. Et nous sommes tous, qu'on le veuille ou non, eh bien, les modèles des générations précédentes, des modèles qui font envie ou des modèles qui font moins envie. Mais on a tous comme ça des modèles. Et Saul a sans doute été un modèle de fraternité. Ananias a sans doute été un modèle de fraternité pour Saul. Et c'est une grande responsabilité qu'être des modèles, justement, malgré nous, mais on l'est. Ananias a accueilli Saul dans le peuple des chrétiens. Il a exprimé sa fraternité. Et c'était le premier contact, comme j'ai dit, de Saul avec des chrétiens, autre qu'une relation de persécution. Et c'était sa première impression. Et lorsque nous découvrons un univers, lorsque nous entrons dans une église, quand on va dans un premier lieu, eh bien, la première impression est particulièrement importante. Et ça nous donne envie de poursuivre ou pas, hein, cette première impression. Et on n'a pas deux chances de faire une première bonne impression. Et la semaine dernière, je suis rentré dans l'église en même temps qu'une personne qui, visiblement, c'était la première fois qu'elle rentrait dans cette église. Et elle a été, je trouve, parfaitement accueillie par une personne de l'accueil qui lui a montré où accrocher son manteau, l'a accompagnée à une place, etc., etc. Et vous voyez, c'est vraiment une responsabilité forte d'accueillir cette première impression. Cette première impression. Et si nous sommes chrétiens, si vous êtes chrétien, eh bien, prenons garde à cette première impression que nous donnons à des non-chrétiens. Et si vous fréquentez cette église depuis pas longtemps, eh bien j'espère qu'on a réussi à vous donner une bonne première impression. Ananias est venu rencontrer Saul pour une mission. Je suis venu pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et le verset 18 est comme l'épilogue de cette rencontre. Verset 18, aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Et le texte ne nous dit pas, mais on peut penser que c'est Ananias qui l'a baptisé. Lui, ce serviteur de l'ombre, dont on n'entendra plus parler après. Et voici l'histoire de cette rencontre à trois avec Ananias, Saul et puis Jésus. Pour terminer, j'ai envie de vous demander quel est notre chemin, quel est votre chemin de Damas à vous? Quel chemin vous avez besoin de parcourir? Et pour certains d'entre nous, eh bien, c'est toute une conversion. C'est ce que Paul a fait ici sur ce chemin, et une conversion totale de vie. Et c'est essentiel de nous souvenir qu'il n'y a pas de péché que le Seigneur ne puisse pas pardonner, comme Saul l'a fait. Saul a persécuté des chrétiens et pourtant, et ensuite, il est rentré dans le peuple de Dieu. Il a eu un ministère incroyable. Dans d'autres cas, ce sont des aspects de nos vies dont il faut faire parcourir le chemin de Damas. D'autres aspects de nos vies qu'il faut convertir aussi pour devenir davantage conforme à Christ et répondre à ses attentes. Pour lui dire, Seigneur, me voici, et se lever pour le servir. Il y a des pans de nos vies que nous gardons pour nous, hein, et on ne s'en rend pas compte. Et parfois, on a besoin de frères ou de sœurs, on a besoin d'Ananias qui viennent nous dire des choses qui ne vont pas. On a besoin d'Ananias avec qui prier pour nous aider à ce que nos écailles tombent des yeux. Et parfois, quand il y a des choses qui nous sont révélées dans nos vies, on se dit, mais comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte avant? Ouais, c'est vraiment ça, hein, avec les écailles qui tombent. Et pour terminer, j'attire votre attention sur un détail du tableau. Alors, on ne voit pas très bien, c'est un peu sombre, mais vous voyez ici une épée et puis aussi un casque. Et le Caravage a représenté Saul par terre et quelque part, il a perdu ses armes. Vous voyez, il a perdu son casque, il a perdu son épée. Casque et épée qui étaient destinés justement à la persécution des chrétiens. Et je trouve que symboliquement, c'est une belle image parce que ça permet de nous rappeler que Paul a changé de combat. Il a enlevé son casque, il a perdu son épée, il a pris d'autres armes, les armes de l'esprit. Et dans 2 Timothée 4, versets 6 et 7, à la fin de sa vie, il dit « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Et le moment de mon départ approche. » Donc vous voyez, on est à la fin de sa vie par rapport à la conversion là. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Voyez, il a changé d'arme, ce qui lui a permis de combattre le bon combat. Et prions le Seigneur chaque jour pour qu'il nous aide à trouver le bon combat, à combattre le bon combat, trouver les bonnes priorités, pour que nous puissions un jour, nous aussi, dire « j'ai combattu le bon combat ». Amen.